parler de ce sujet-là parce que nous sommes en Aquitaine, que maintenant nous avons, vis-à-vis de la science-fiction, nous avons quand même Pierre Bordage qui s'est installé dans le Lot-et-Garonne à côté de Tonneins. Nous avions Michel Jury, nous avons eu également Francis Carsac, François Borde, qui est également un grand universitaire bordelais. On va vous en parler donc, évidemment tout de suite. Et nous avons bien sûr grand écrivain jeunesse, Christian Grenier, qui vit au Flé, pas très loin, dans la région donc, du Bergeracois, à quelques kilomètres d'ici Jacques, qui était donc le village évidemment où a vécu Michel Jury. Donc on va vous présenter tout ça et puis on va aussi réfléchir à cette notion. Pourquoi finalement les écrivains de science-fiction, je pense notamment évidemment à Michel Jury, étaient vraiment intéressés par le terroir, la terre, alors évidemment par rapport à ses origines, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Souvent les écrivains choisissent, on pourra peut-être faire intervenir Pierre à ce sujet, mais les écrivains aiment bien vivre dans des endroits, je dirais, ruraux, un petit peu éloignés de la ville. Alors est-ce que c'est évidemment favorable à leur travail d'écrivain? Ça c'est une question qu'on pourra bien sûr leur poser. Vous voyez, donc il y a toute, je pense, une problématique intéressante à creuser entre science-fiction et terroir. Voilà, il y a Daniel Martingol qui est là aussi. Je ne sais pas, Daniel, si tu vis également à la campagne.
Ah oui, moi, je suis à la campagne.
Voilà, vous voyez, donc c'est quand même un point commun qu'on va retrouver, peut-être pas uniquement, bien sûr, pour les écrivains de science-fiction, mais enfin, là, pour le coup, pour nous, dans la convention, c'est ce que nous avons donc choisi de faire. Alors, nous allons parler donc de trois auteurs aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire une rapide présentation de Michel Jury, puis surtout évidemment ses rapports avec la ville d'Issijac, et puis bien sûr le terroir périgourdin. Ensuite, ce ne sera pas très très long, hein, bien sûr. Ensuite, je vais passer la parole à un de nos invités, alors quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez connaître très bientôt, qui s'appelle Jean-Patrick Loiseau, qui vient de passer en fait, vient de faire une thèse en histoire des sciences sur François Borde, Francis Carsac. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'il a vraiment creusé justement la dimension scientifique de François Borde, tout en faisant le lien évidemment avec Francis Carsac. Francis Carsac qui était bien sûr le pseudonyme utilisé par François Borde pour publier ses romans de science-fiction. Par contre, Jean-Patrick, j'ai plus le titre de la thèse en tête. Est-ce que tu peux me rappeler?
François Borde et la construction de la préhistoire dans la seconde moitié du XXe siècle.
Voilà, ok, merci. Bon. Et donc je vais publier dans la collection SF Incognita l'année prochaine aux presses universitaires de Bordeaux, donc un ouvrage, un essai, qui sera consacré à Francis Carsac et que donc Jean-Patrick est en train d'écrire. Oui. Voilà, donc on va avoir quand même des éléments tout à fait nouveaux, novateurs sur Francis Carsac, et c'est pour ça que, un petit peu en exclusivité, je l'ai invité donc, voilà, pour cette table ronde, présentation. Alors très rapidement, donc en Aquitaine, nous avons eu la chance d'avoir évidemment un grand écrivain qui était Michel Jury. Et Michel Jury donc avait l'habitude de dire qu'il avait une sorte de double dimension. Et qu'il vivait donc la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre. Donc Michel Jury, qui est né en 1934 à Razak Daymé, donc c'est dans la région évidemment d'Issijac. Enfin, c'est un petit peu à la limite entre le, je vous dis pas de bêtises, entre le Lot-et-Garonne donc et la Dordogne. Bon, c'est pas, de toute façon c'est quand même un petit peu dans le même canton. C'est quelqu'un qui a eu quand même une vie véritablement terrienne, puisque ses parents étaient des métayers très pauvres, à tel point d'ailleurs qu'ils ont eu l'intention de se suicider à deux reprises à cause de la misère dans laquelle ils vivaient. Donc Michel Jury a vraiment connu, je dirais, une misère profonde. Il a également connu la faim. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir, je pense, en tête pour expliquer ses racines avec le terroir. Mais Michel Jury n'a jamais voulu être paysan. Il revendiquait des origines, vous voyez, paysannes, mais il n'a jamais voulu être paysan. Lui, son rêve, c'était de devenir écrivain. Et dès l'âge de 9-10 ans, à peu près, il a commencé à élaborer, je dirais, ce fantasme, en quelque sorte, de carrière. Arrivé vers 17 ans, l'idée continuait à germer dans sa tête, et il a rencontré, enfin, son père lui a fait rencontrer un écrivain qui s'appelait Émile donc Granger. Et Émile Granger, c'était, alors vous savez, c'était un écrivain très populaire dans les années 30. Et Émile Granger, c'est quelqu'un qui va notamment aider Frédéric Dard, le futur Frédéric Dard, le futur Saint-Antonio. Voyez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était dans cette veine-là et qui va donner, je dirais, des ficelles. Alors d'abord, expliquer ce que c'est que le métier d'écrivain, parce que c'était un véritable métier, hein, parce que Michel Jury l'envisageait comme, je pense, un artisanat. Oui, donc on est toujours un proche de cette notion de, je dirais, de, finalement, de terroir. Et il va lui expliquer ce que c'est que ce métier finalement d'écrivain, lui donner un petit peu des ficelles, puisque c'était véritablement cet écrivain populaire. Et Michel va donc se lancer dans cette carrière d'écrivain, assez laborieusement, assez péniblement, puisque Le Temps incertain ne sera publié que des années plus tard. Donc il avait 39 ans et il l'a envoyé en 1972 à Gérard Klein pour la collection, donc Ailleurs et demain. Alors, je dirais que la carrière de Michel Jury en tant qu'écrivain de science-fiction, vous la connaissez bien. Par contre, ce que vous ne connaissez peut-être, ce que vous connaissez un petit peu moins, c'est la carrière de Michel Jury en tant qu'écrivain véritablement de terroir, écrivain régionaliste. Et je crois que ce qui est important là aujourd'hui, c'est de voir pourquoi Michel a basculé finalement à la fin des années 80 dans cette carrière d'écrivain régionaliste. Il a énormément vendu. C'est-à-dire que par rapport à la science-fiction, vous voyez, en Ailleurs et demain, il vendait à peu près 10 000, 20 000 exemplaires. Quand il a vendu, par exemple, ses plus grands titres qui après vont être publiés donc chez France Loisirs au Club du Livre, se sont quand même vendus à 250 000 exemplaires. Vous voyez. Et alors, très souvent, le lectorat de science-fiction méconnaît totalement cette carrière-là. Et son lectorat, vous voyez, de littérature régionaliste ne sait absolument pas qu'il a été un des plus grands écrivains donc, de science-fiction français du XXe siècle.
Il tombe des nues quand on le précise, d'ailleurs.
Absolument. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand je présente toujours les travaux de Michel. Ça, c'est vraiment... Alors, vous voyez, c'est un petit peu... Alors, Michel, il aime bien ça. Il aimait bien ça, cette espèce de paradoxe et de vivre, finalement, dans deux dimensions, vous voyez, deux mondes un petit peu totalement différents. Alors, la raison pour la... D'abord, Michel a toujours voulu écrire ce qu'il appelait un roman paysan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, alors il a basculé en quelque sorte dans cette littérature régionaliste donc de terroir, je dirais vraiment ses premiers succès, ça a été dans les années 90-91, véritablement. Et bon, il y a eu une raison pécuniaire, financière, tout simplement, parce que la science-fiction ne rapportait pas assez. Et donc, du coup, il a décidé de basculer dans ça. C'était la mode à l'époque, vous savez, il y avait, j'ai plus tous les noms en tête, mais il y avait des gens, par exemple, comme Signorelli, qui fonctionnait très très bien hein, à l'époque. Ça lui a permis également d'intégrer, je dirais, un monde littéraire totalement nouveau. Alors, il quittait la famille de la science-fiction, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis, on voit bien que c'est vraiment une famille de la science-fiction, c'est voilà, avec des gens qui se connaissent extrêmement bien, pour aller dans un milieu qui était quand même beaucoup plus dur, qui est le milieu de la littérature générale. Et Saint-Michel, c'est quelque chose qu'il avait toujours regretté. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est revenu à la fin de sa vie, quand il sentait qu'il était quand même fatigué, en 2010 avec Mets le monde à la science-fiction, et bien justement pour retrouver ce milieu-là. Et je peux vous dire que ces dernières années, il a été véritablement enchanté d'être revenu, vous voyez, dans sa famille d'origine, sa famille littéraire d'origine. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, dans les années 90, il passe à cette littérature régionaliste. Il veut s'inscrire dans une sorte... alors, Gérard Klein va lui faire rencontrer Michel Pochemort, qui était le chef de file d'une école, je dirais, de la littérature régionaliste de l'époque, qu'on appelait l'école de Brive. Voilà. Mais, comme toute école littéraire, entre guillemets, il y a des contraintes, ça ne convenait absolument pas à Michel. Pochemort n'a pas du tout plu à Michel, et donc il a décidé d'écrire ses propres romans. Voilà. Et donc, il s'est lancé dans cette littérature de terroir. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a toujours des liens entre le terroir et la science-fiction dans l'œuvre de Michel Jury. Alors on va voir après si on va rencontrer un petit peu la même chose finalement chez Carsac, par exemple, ou si Christian pense à ce genre peut-être de lien dans sa propre production. Mais chez Michel, par exemple, vous avez, je me rappelle dans un de ses romans terroirs, vous avez le personnage de Vincent le Rouge. Donc il y a ces personnages fétiches dans sa première trilogie terroir, entre dans une grange et il ouvre une porte sur l'été. évidemment référence à Enai, bien sûr. A contrario, certains, par exemple, de ces personnages de science-fiction, notamment dans certains titres du Fleuve Noir, ce sont donc des astronautes, de grands navigateurs de l'espace, qui ont quand même un couteau dans leur poche, comme des paysans. Mais donc il y a toujours ces espèces de liens qui finalement se tissent constamment entre le terroir et la science-fiction. Et ça, pour Michel, c'était très important. Autre chose, par exemple, un signe très fort, Michel a été, je dirais, l'initiateur, l'inspirateur d'un roman de Igor et Grishka Bogdanov qui s'appelle La mémoire double. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce roman, qui est un bon roman. Et surtout, le sujet est très intéressant puisque ça raconte l'histoire. Je ne vais pas spoiler, évidemment, mais bon, je vous explique quand même un petit peu cette histoire-là. Ça raconte l'histoire, la vie d'un ouvrier agricole, simple, jeune, qui en fait va se trouver confronté à des phénomènes inexpliqués. Et en réalité, il vit dans un monde virtuel. Vous voyez ? Donc là, c'est complètement le mélange entre, en quelque sorte, la vie agricole, qui est décrite de façon très précise, et Michel, je sais, les a beaucoup aidés pour faire son roman, et évidemment, la science-fiction. Donc, il y a ces liens très forts, et je pense que science-fiction et terroir, véritablement, c'est une thématique importante dans l'œuvre de Michel Jury, voyez, un lien entre le passé, le futur, entre finalement une attache terrienne très forte, et puis, évidemment, l'espace. Donc, véritablement, c'est une donnée très importante pour définir, une donnée essentielle pour déterminer, je crois, certains écrivains. On va voir si évidemment ça va se retrouver. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Patrick, qui va nous parler de Francis Carsac, mais aussi de François Borde. Chez Borde, c'est un petit peu différent peut-être, parce que François Borde était quand même un très grand préhistorien. Pourquoi il s'est mis à écrire des romans de science-fiction ? Ça, je pense que ce serait intéressant, évidemment, peut-être Jean-Patrick nous donner une réponse. Voilà.
Alors, est-ce que vous m'entendez comme ça ? Vous m'entendez suffisamment ? Oui ?
D'accord. Ouais. Vas-y, là.
C'est le micro ?
Oui, c'est lui, parce qu'on fait non.
D'accord. Merci à Natacha, déjà, de m'avoir invité. Je suis ravi et heureux d'être devant vous aujourd'hui. Je suis devant vous également avec beaucoup de modestie, parce que je ne suis ni professeur de littérature, ni un scientifique confirmé. Je m'intéresse simplement et aux sciences, et à l'histoire des sciences, et à la littérature, le tout me rendant heureux, ce qui est déjà pas mal. Pour vous parler un peu de Francis Carsac, est mort le 30 avril 1981 à Tucson, en Arizona, au cours d'une mission universitaire. Et différents hommages tout de suite lui ont été accordés. Et le même jour, une autre personnalité est décédée, François Borde, préhistorien bordelais de très grand talent, qui est mort dans la même université. Vous savez aujourd'hui que ce sont les mêmes personnes, mais certains ont découvert à l'époque que ces deux personnes en faisaient qu'une, en constatant en particulier que non seulement ils étaient morts le même jour, mais ils étaient nés également le même jour, le 30 décembre 1929, à Rive dans le Lot-et-Garonne. Et beaucoup de scientifiques, de nos jours, ne connaissent pas l'œuvre de François Borde, alors que François Borde est connu et disséqué en entier parmi tous les préhistoriens du monde. François Borde, Francis Carsac, est né dans un milieu qui ne le prédisposait ni à la littérature ni aux sciences. Son père était un négociant qui avait fait fortune en Afrique en particulier, et sa mère était issue d'un monde agricole traditionnel, ni pauvre ni riche. Son père le destinait à l'origine à faire des études de droit qui ne le passionnaient absolument pas. Lui préférait tout ce qui était science, à la fois tailler des outils préhistoriques, s'occuper d'insectes, collectionner des papillons. Il s'intéresse à toutes les sciences, c'est-à-dire les sciences naturelles, la physique, la chimie, la géologie. Et il s'intéressait également à beaucoup de littérature, en particulier la littérature d'aventure. Ça allait du Dernier des Mohicans, en passant par des bandes dessinées comme Les Pieds Nickelés. C'est ce que rappelle son fils Georges, qui a écrit une nouvelle avec lui et qui lui-même était universitaire. Ce qui est très curieux, c'est que préhistoire et science-fiction sont deux histoires qui sont relativement parallèles. Elles apparaissent toutes les deux à peu près au cours des années 1850, même si on peut trouver des précurseurs dans un cas comme dans l'autre. Mais pour la préhistoire en France, c'est à partir des années 1850 que dans le nord de la France, un contrôleur général des douanes qui s'appelait Boucher de Perthes fait le lien entre des fossiles qui sont découverts, mais des fossiles humains mélangés avec graisses d'animaux qui ne sont pas contemporains. Et il apparaît assez rapidement qu'il existe un homme antédiluvien, c'est-à-dire antérieur au déluge, contrairement à ce que dit la Bible. Donc il faut quand même pas mal de temps pour vaincre des préjugés et reconnaître que le temps de l'histoire humaine est certainement plus long que celle qu'on nous croit. La science-fiction, elle, naît à peu près au même moment. Il y a naturellement quelques précurseurs, mais je veux dire que c'est qu'à partir des années 1850, véritablement, que les mouvements de science-fiction apparaissent et se développent, en particulier dans les pays anglo-saxons. Donc ce sont deux histoires qui évoluent parallèlement, avec l'une qui s'occupe de mondes qui n'existent plus, et l'autre qui s'intéresse à des mondes qui n'existent peut-être pas. Quand on regarde un peu ensuite l'histoire de François Borde, François Borde est un préhistorien qui a marqué son temps. À ma grande honte, lorsqu'on m'a proposé ce sujet de thèse, je ne connaissais pas François Borde. Je voyais bien un arrêt de train devant l'université, mais je ne savais pas qui c'était. Or, François Borde fut, avec l'abbé Breuil et André de Rougourand, un des principaux préhistoriens, non pas de France, mais du monde entier. Lorsqu'il s'intéresse à la science-fiction au début des années 1950, au sortir de la guerre, il commence à faire une thèse, la préhistoire est dans une sorte d'impasse. C'est-à-dire qu'on assimile des objets, un objet trouvé, un fossile, un seul, pour caractériser une période. C'est comme si dans quelques 10 millions d'années, lorsque nous ne serons plus là, que ces bâtiments n'existeront plus, on retrouvera peut-être ces clés, et on dira ces clés sont caractéristiques du XXe siècle. Lui, ça ne le satisfaisait pas, et il est allé un peu plus loin. Donc il a mis en place différentes choses. Tout d'abord, il a fait une analyse plus fine, stratigraphique des terrains, en disant, mais ce fossile que l'on trouve, cette clé que l'on redécouvrira, est-ce qu'elle est bien du XXe siècle, du XXIe ou du XVIIIe? Lui, c'était un temps un peu plus long, en disant, mais ces outils que l'on découvre, est-ce qu'ils datent de 100 000 ans, de 150 000 ans ou de 200 000 ans? Donc il a refait une analyse stratigraphique de beaucoup de sites, en particulier dans le nord de la France et naturellement dans tout le Grand Sud-Ouest. Il a mis en place une liste typologique de pierres taillées en disant toutes les pierres taillées peuvent être cataloguées en tel ou tel outil. Comme lorsqu'aujourd'hui on dirait parmi tous les outils que l'on peut trouver dans une boîte à outils, il y en a une cinquantaine types, dont le tournevis, dont la clé, dont la scie, etc. Donc il a mis en place une liste typologique, c'est-à-dire qu'il a essayé de normaliser les choses. Enfin, il a également fait deux choses. C'est un grand expert de la taille d'outils. Comme quelqu'un, un futur préhistorien sera peut-être un spécialiste de la fabrication des clés de voiture, a essayé de reconstituer le geste technique. Et en reconstituant le geste technique, c'est d'apprécier le niveau intellectuel de la personne qui l'a fait, mais également les réseaux sociaux qui s'entourent, en découvrant qu'il y a des outils qui sont bien taillés, d'autres qui le sont moins, en constatant que certains outils taillés se trouvent à tel endroit de la grotte et pas à tel endroit. Et enfin, chose qui était complètement inédite à l'époque, il a transposé une méthode statistique qui s'appliquait en géologie à la préhistoire, en disant on ne peut pas considérer qu'un seul outil caractérise une période. Mais par contre, ce qui peut caractériser une période, c'est un ensemble d'outils. Exemple, pour plus tard, ces préhistoriens du futur, toujours, diront mais cette clé ne va pas forcément caractériser le XXe siècle. Par contre, en étudiant toutes les porte-clés et toutes les clés possibles, on arrivera à avoir une classification qui est beaucoup plus précise. Et on arrivera à dire tel type de porte-clés correspond plus à la fin du XXe siècle en Occident par rapport à tel type de porte-clés qui correspond peut-être plus au début du XXe siècle et peut-être dans une autre civilisation. Donc c'était une œuvre de très très grande ampleur et qui a en particulier permis d'avoir une vision différente de la préhistoire. Ce qu'il a montré en particulier, c'est que pour certaines périodes, la fabrication d'outils identiques n'était pas liée à la taille des pierres, n'était pas liée à un schéma intellectuel différent, mais qu'il y avait des cultures différentes. Il est tout à fait possible, par exemple, que l'on trouve que dans un futur lointain, on découvre des fourchettes en Europe, mais également des baguettes en Asie. C'est la même période, c'est le même coefficient intellectuel, mais ce sont des cultures différentes pour fabriquer des outils avec la même utilisation. Donc il y a eu un apport qui était assez exceptionnel. Pourtant, cet homme-là ne s'est pas consacré qu'à la science. C'est un homme qui s'est toujours intéressé à la littérature, et en particulier avec l'influence d'un homme qui a certainement donné un sens important à sa vie, c'est Rosny-Aîné, et en particulier la guerre du feu. Au début de sa thèse, dans les remerciements que tout un chacun peut faire, il y a quelque chose de très précis, qui est en début, qui est très marquant, sur lequel il dit que lorsqu'il avait 10 ans, alors qu'un jour il pleuvait, il est allé voir un ami, ne sachant à quoi jouer, s'ils ont étalé quelques livres sur la table, Il en a pris un au hasard, c'était la guerre du feu, et il n'a pas pu s'arrêter, il n'a pas vu la pluie tomber. Et ce livre, il l'a lu 20, 30, 40 fois, et c'est le dernier livre qu'il avait lu, puisqu'il l'avait amené à Tucson, en Arizona, lorsqu'il est décédé. Ce fut une plongée pour lui dans cette longue nuit des temps qu'est le paléolithique, ce monde merveilleux et enchanteur, ce monde plein de dangers, mais dans lequel il s'est plongé sans se retenir. Et paradoxalement, Rosnier n'est pas qu'un homme de la préhistoire. C'est un homme également qui a écrit des livres de science-fiction en se projetant dans le futur. Je pense en particulier avec La mort de la Terre, où il parle d'une fin apocalyptique d'un monde qui n'existe pas encore. Et François Borde, toute sa vie, reste entre les deux. Entre un monde qui n'existe plus, qu'il essaye de reconstituer, et un monde qui n'existe pas et qu'il essaye d'imaginer. Mais s'il s'intéresse à toutes les littératures, il n'a par contre jamais écrit de roman à caractère préhistorique. Et il l'explique assez clairement en disant « La préhistoire, c'est quelque chose qui reste de très scientifique, et je ne veux pas faire de l'à peu près imaginer les choses. Je ne veux que reconstituer un passé et ne pas l'imaginer. » En particulier, par exemple, il s'est toujours intéressé aux traces matérielles du passé, mais il ne s'est jamais intéressé à ce qui relève du schéma mental, c'est-à-dire l'interprétation des peintures, des sépultures, etc. C'est pour lui, comme il explique, le dessin E-I-N à la fin, c'est-à-dire le sort, l'évolution des populations préhistoriques est quelque chose qui est définitivement perdu. On a perdu les rites, la magie, les danses, les chants, les paroles, et il ne veut pas imaginer quelque chose dont il n'est pas sûr. Il conserve son imagination pour le monde de la science-fiction. Il faut dire par contre qu'au début des années 50, le monde de la science-fiction, c'est assez dangereux pour un scientifique. Et il fait en sorte de changer son nom. Il craint, et peut-être à juste titre à cette époque, de passer pour un zouave, un zigoto, comme il explique, et que sa carrière soit brimée, qu'il soit critiqué, qu'il ne puisse plus avancer, et que l'on considère comme quelqu'un de pas très sérieux. Alors qu'aux États-Unis, à peu près au même moment, des gens comme Isaac Asimov, par exemple, ont une culture scientifique et arrivent à mener de front pendant quelques temps des fonctions scientifiques avec une fonction littéraire. En France, au départ, c'est quelque chose qui n'est pas trop admis dans un monde qui est assez fermé, celui du CNRS qui est en création avec des luttes de pouvoir, des luttes d'influence, où il faut vraiment montrer qu'on est un pur scientifique. C'est pour ça qu'il prend ce nom de Carsac. Carsac est une petite ville au sud de Sarlat, dans laquelle il a acheté une propriété, une petite maison, dans lequel je me suis rendu et j'ai pu rencontrer ses enfants survivants, Cécile et Arnaud, qui m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. L'œuvre de Francis Carsac, elle est assez courte, mais il y a beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas encore publiés, qui sont sortis, que je suis en train de regarder. Il a écrit 7 romans, 19 nouvelles, des années 1954 aux années 1967, même si quelques-unes ont été publiées après sa mort. C'est une période où sa construction scientifique se poursuit. Oui, au sommet de sa carrière en tant que chercheur, mais il n'a pas encore pris des fonctions institutionnelles importantes. À partir du début des années 70, il est devenu directeur des antiquités préhistoriques. Ça veut dire qu'il a la haute main sur tous les sites préhistoriques, c'est-à-dire qu'il faut son autorisation pour fouiller. Donc il a des fonctions institutionnelles et de patron de laboratoire qui lui prennent beaucoup de temps et qui l'empêchent de continuer ses recherches personnelles, mais qui l'empêchent également de continuer à écrire. François Borde a été malgré tout un très grand communicant. Il a à peu près 200 articles, il écrit une dizaine d'ouvrages de science, dont un est ici, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Mais même s'il a continué à imaginer des histoires, il ne les a pas toutes écrites. J'en ai découvert quelques-unes et je sais à peu près où sont les autres. Quand on regarde l'œuvre de son œuvre littéraire, celle de Francis Carsac, puisqu'on abandonne un petit peu François Borde, il a écrit quelques nouvelles avec d'autres. Je pense en particulier une avec qui s'appelle La Revanche des Martiens, qu'il avait écrit avec quelqu'un que vous connaissez certainement de nom, Jacques Bergier. Et il a écrit une autre histoire avec son fils, Georges Borde, qui était professeur de l'université à Toulouse, qui est décédé il y a quelques années, qui était professeur d'économie, et qui s'appelle La Revanche des Martiens, qu'il a écrit avec lui sous le pseudonyme de Francis Carsac et de Georges Carsac. Et enfin, il a utilisé pour le dessin quelqu'un qui dessinait avec lui en préhistoire, qui s'appelle Pierre Laurent. Le dessin est extrêmement important en préhistoire, parce que la photographie, je l'ai constaté par moi-même, on peut prendre des photographies de sites historiques, des photographies de personnes, mais lorsqu'on prend une photographie d'un objet, qu'il soit osseux, qu'il soit lithique, c'est-à-dire en pierre, la photographie ne montre pas tous les détails. On voit des ombres, on voit le trait général, mais on a du mal à voir toutes les finesses qui montrent des stries en particulier et qui montrent l'angle d'attaque de la taille. Et ce qui fait que, jusqu'à ce jour, rien ne remplace le dessin, et le dessin est quelque chose qui est toujours utilisé dans le domaine scientifique de la préhistoire. Ce n'est pas le seul, naturellement, mais il est nettement privilégié encore en 2016, à l'instant où je vous parle. Que nous apprend Francis Carsac ? Quand on regarde les histoires de Francis Carsac, c'est une imagination qui peut être débridée, contrairement à ce qu'il a fait en science, mais la science est toujours omniprésente. C'est une science qui est bien fétiche, tout d'abord. On voit à travers la médecine, la botanique en particulier, que la médecine est faite pour soigner les gens. La botanique, c'est le retour à la pharmacopée, le retour à la capacité de trouver des solutions pour tous les peuples, qu'ils soient des peuples premiers ou que ce soit des peuples industrialisés. Donc la science est toujours omniprésente chez nous. C'est une science qui est bien fétrice, et il a toujours tendance à décrire le scientifique comme une sorte de gourou. L'homme en qui on peut faire confiance, l'homme qui est capable de prendre les décisions, l'homme qui est détaché des intérêts économiques, l'homme qui va travailler pour le bien commun, l'homme qui ne compte pas ses heures, l'homme qui ne demande pas d'augmentation de salaire. Paradoxalement, également, enfin paradoxalement, parallèlement, on peut voir que le scientifique est toujours chez lui un beau gosse, quelqu'un qui est bien foutu, quelqu'un qui est assez sportif, qui aime le javelot, comme François Borde en faisait, qui aime les femmes, comme François Borde les appréciait en tout bien, tout honneur. L'homme qui protège ses collaborateurs, ce que faisait également François Borde. Enfin bref, le scientifique est généralement présenté sous des traits assez flatteurs. Mais il s'est fait à la part des choses quand même. On est au sorti de la guerre lorsqu'il commence à écrire. Et on voit qu'il a des inquiétudes sur l'avenir de la science. C'est-à-dire qu'il a connu, par l'intermédiaire de son père, ce qu'était la guerre de 14, avec une guerre qui est devenue certainement avec une plus grande capacité de masse à tuer, je pense en particulier avec les gaz. Donc François Borde, à différents romans, s'inquiète de l'utilisation de l'arme nucléaire. S'inquiète de dire est-ce qu'il y a des guerres justes, est-ce qu'il y a des guerres injustes. Il s'inquiète également de développement génétique qui commence à entrevoir comme quelque chose de dangereux plus tard pour l'humanité. C'est tout le problème de transhumance dont on commence à parler aujourd'hui. C'est-à-dire, est-on capable de modifier la nature humaine et quelles en seraient les conséquences ? François Borde également se rend bien compte que la toute-puissance scientifique n'est qu'à l'heure, qu'elle ne peut pas tout expliquer, qu'elle ne peut pas tout découvrir. Et enfin, il se rend compte également qu'elle a une certaine suffisance, une certaine mort. C'est-à-dire que certains scientifiques veulent décider, mais que si le scientifique a une compétence, il n'a pas forcément la légitimité à remplacer un vote populaire. Quant au thème que l'on retrouve sur ces romans, alors il faut dire que dans ces romans, à peu près toutes les sciences sont passées dans l'eau. Il utilise la cosmologie, il est en particulier intéressé par les univers parallèles, la possibilité d'univers multiples. Il s'intéresse beaucoup à la physique, il la met beaucoup en scène, avec des voyages intergalactiques. Il invente une notion en particulier qui est la notion Down. C'est-à-dire qu'il sait bien que la théorie de la relativité générale d'Einstein montre que rien ne peut dépasser la lumière, c'est-à-dire à peu près 300 000 km/s, alors que la première galaxie à côté de chez nous, Andromède, est à plus de 2 millions d'années. Donc il invente la Down, c'est un monde imaginaire, un espace qui n'existe pas mais qui existe pour d'autres, c'est-à-dire une capacité à traverser l'espace sans être bloqué par la vitesse de la lumière, à pouvoir en quelques secondes se retrouver à des milliards d'années-lumière de chez nous. On retrouve beaucoup la chimie également, même si ce n'est pas sa spécialité, mais la chimie qui permet d'analyser la composante de la Terre, la composante de telle planète. On retrouve beaucoup de notions de géologie. Et enfin, naturellement, beaucoup de notions de préhistoire. François Borde pense en particulier, il exprime à différentes reprises, que toutes les autres planètes qui peuvent exister et qui ont des civilisations, car il croit à d'autres civilisations, ont connu un passé préhistorique qui a pu être oublié et que les civilisations essayent de redécouvrir. Les thèmes qu'il aborde, après, dans ses romans, se retrouvent à différents niveaux dans sa carrière scientifique. C'est tout d'abord les relations entre les espèces. Au moment où François Borde est un scientifique, c'est-à-dire des années 50 jusqu'à son décès en 1981, on ne maîtrise pas le lien véritable entre Homo sapiens, c'est-à-dire vous, moi, Homo moderne, et Néandertal. Le débat n'est pas complètement tranché de savoir si Homo sapiens descend de Néandertal, si c'est un cousin, à quel degré. Et il participe à différents colloques pour ça, en particulier en 1969, un colloque sur l'origine de l'homme moderne. Et dans ces romans, on retrouve à différentes reprises les relations entre espèces différentes, tout d'abord entre des espèces différentes intelligentes qui seraient à des distances extrêmement éloignées qui se rencontreraient. Il se demande tout d'abord, c'est de dire, mais est-ce qu'on serait capable de comprendre leur message? Est-ce que ça serait une écriture? Est-ce que ça serait un son? Est-ce que ça serait une onde, une lumière, une activité? Est-ce que nous serions capables de découvrir un message? La deuxième chose qui se pose également comme question, c'est de dire, mais y a-t-il un risque? C'est-à-dire, quelles seraient leurs intentions? Seraient-ils plus avancés que nous, moins avancés? Quels seraient les risques? Faudrait-il faire semblant de ne pas les voir? Ou au contraire, faudrait-il aller à leur rencontre? Il s'intéresse également beaucoup au sort, à l'évolution des espèces, c'est-à-dire des espèces et des civilisations. Il prend conscience au sortir de la guerre de la fragilité des choses, c'est-à-dire que les choses sont dures à construire et sont fragiles à écrouler. Donc il se demande si l'homme moderne, lui aussi, pourra décliner. Il se demande si les civilisations extérieures ont décliné, ont régressé, ont disparu du fait de leurs bêtises, du fait de guerre, du fait d'invasions extérieures, ou tout simplement du fait de la propre évolution de la géologie de leur planète. Nous avons, nous, des civilisations qui, peut-être, auraient pu émerger, se développer plus facilement s'il n'y avait pas eu cette succession de glaciations, glaciations que l'on sait qui reviendront malgré le réchauffement climatique. Il faut vous dire que dans quelques 20 à 30 000 ans, vraisemblablement, nous ne serons pas forcément là encore dans cette salle pour s'en rendre compte, mais vraisemblablement qu'une grande partie de l'Occident sera de nouveau sous les glaces. Et c'est quelque chose... C'est quelque chose auquel il songe régulièrement dans ses romans. François Bordes se pose la question également du développement des intelligences, c'est-à-dire est-ce que notre intelligence est arrivée à son maximum, et est-ce qu'il peut y avoir d'autres espèces dont l'intelligence va se développer. Il invente en particulier la notion de paralion dans un de ses romans. C'est un lion qui a subi une évolution génétique et qui a la compréhension d'un enfant de 10 ans et qui n'est pas... L'homme est un animal, mais qui est à mi-chemin, disons, entre les félins et l'homme. Et c'est de dire, mais quelles seraient les conséquences pour l'humain si des animaux se mettent à avoir une intelligence qui se met à se développer pour des raisons qui aujourd'hui nous échappent. Ce que l'on peut dire sur Francis Carsac également, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à la Terre. Il craint la dénaturation de la Terre. Il est habitué dans sa science à comprendre que l'évolution de l'homme à partir de l'agriculture, c'est-à-dire le néolithique, est un homme qui est dénaturé, qui sort de la nature, qui petit à petit maîtrise la nature, mais jusqu'à la détruire. Et c'est quelque chose qui l'inquiète, c'est quelque chose qui a beaucoup de nostalgie. Et c'est en partie pour ça, me disait sa fille, qu'il se réfugiait très souvent en Dordogne, dans un endroit ou un milieu qui est encore rural, non pas pour des racines familiales, mais pour ce plaisir de se retrouver dans un monde qui parfois est celui qui existait avant l'homme. Enfin, ce que l'on retrouve dans tous ces romans, c'est quand même, à un moment ou à un autre, c'est le sens de l'amitié, le sens du Périgord, la solidarité et l'esprit de groupe. Que vous dire de plus sur Francis Carsac? Simplement vous dire qu'en 1981, la science a perdu un très grand scientifique, la littérature a perdu un très grand homme de lettres, ses amis ont perdu un homme de grande amitié. J'ai eu la chance de faire une thèse sur François Bordes, qu'à ma grande honte, comme je vous disais en introduction, je ne connaissais pas avant de travailler sur lui. Je ne connaissais pas non plus Francis Carsac, mais j'ai consacré un chapitre entier à cette étude sur lui, ce qui m'a permis à la fois, peut-être encore plus en étudiant scientifique, d'apprécier l'homme de lettres et surtout d'apprécier l'homme. C'est une œuvre qui reste à découvrir, peut-être à réécrire. Et pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce fut un choc pour moi d'étudier François Bordes, Francis Carsac. Francis Carsac est enterré dans le petit cimetière de Carsac, en Dordogne, à quelques pas de la tombe de mes arrière-grands-parents. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo.
Je crois que j'ai bien fait hein, de faire venir Jean-Baptiste, parce que vraiment, moi, quand j'ai lu sa thèse, j'ai eu un choc. C'est un collègue historien des sciences qui s'appelle Hugues Chabot qui m'a fait donc découvrir ce travail-là. Et je pense que nous allons... Alors, ce que je peux vous dire simplement sur son futur livre, hein, c'est que nous avons des documents inédits. Nous avons de la correspondance également parce que donc Francis Carsac entretenait une grande correspondance, notamment avec Poul Anderson. Vous voyez, donc on a des documents, on va avoir des documents totalement inédits à proposer, et ça, ce sera je crois, quelque chose d'assez extraordinaire pour la redécouverte donc, de cet auteur. Alors maintenant, donc, merci beaucoup Jean-Patrick pour cette présentation brillante et puis qui va, je pense, nous a redonné envie de lire Francis Carsac. Donc je vais passer la parole maintenant à Christian Grenier. Alors Christian Grenier, qui est, bon, je ne vais pas, mais si, je vais le présenter un petit peu quand même, 30 secondes, mais Christian Grenier, au départ, enseignant donc de français, de lettres, et puis évidemment, grand écrivain donc jeunesse, il a finalement abandonné l'enseignement pour se consacrer complètement à ce métier-là, et d'écrivain, et c'est vraiment tant mieux pour nous. Il est encore très très apprécié et très lu dans les collèges. On l'a vu en 2014, puisque nous l'avions invité dans le collège de ma fille, et vraiment les enfants lui avaient fait, enfin les jeunes lui avaient fait d'abord un bel hommage parce qu'ils avaient écrit justement pour lui, et il y a un véritable intérêt. Donc voilà, c'était une rencontre tout à fait extraordinaire. Voilà, donc Christian, eh bien écoute, je vais te céder la parole pour nous parler du terroir, de Carsac, de ce que tu veux en fait, tiens.
Eh bien, merci, puisque j'ai toute liberté de parler de ce que je veux, je vais, en guise d'introduction, poser une question d'ordre général. Qui, en 1953, a publié chez Gallimard un ouvrage intitulé, que je ne dise pas de bêtises, « La crise de croissance de la science-fiction » Victor Hugo n'était plus là depuis un certain temps. C'est Michel Butor. En 1953, Michel Butor, qui est mort avant-hier, a publié, en effet, un article sur la crise de croissance, 53, de la science-fiction. Je dirais que cet article serait peut-être aujourd'hui encore d'actualité. Pourquoi cette introduction et cet hommage à Michel Butor, avant de parler de Michel Jury et de Francis Carsac? Parce que Michel Butor a été l'un des chantres et des précurseurs du nouveau roman, et qu'en réalité, Michel Jury, voilà un lien, quand il a écrit Le Temps incertain, l'a écrit comme un nouveau roman. Au départ, Le Temps incertain était un nouveau roman. Il s'inscrivait dans la lignée de Rebrier, Nathalie Sarraute et Michel Butor. Et ce n'est que dans un second temps, un deuxième temps, qu'il a décidé de modifier un petit peu son parcours, de biaiser de façon à en faire un roman de science-fiction. Alors le sujet est délicat, je vais revenir évidemment au sujet, c'est-à-dire science-fiction et terroir. Je dirais que là, Michel Jury correspond tout à fait à ça, c'est science-fiction et terroir, puis terroir. Ce qui m'intéresse dans cet intitulé, c'est surtout la place du terroir dans la science-fiction. Et aussi bien pour François Borde, Francis Carsac, que pour Michel Jury, que pour moi, que pour Daniel Martin-Nicole ou Pierre Bordage et beaucoup d'écrivains, mais aussi, et paradoxalement, les écrivains de science-fiction, la place du terroir est importante. À quel niveau? Je pense qu'on écrit avec ses racines, de grande force, hein, et on écrit avec ses racines, que ce soit de la littérature générale, de l'essai ou de la science-fiction. Et alors quand je dis racines, ce sont des racines géographiques, culturelles, spirituelles, religieuses, familiales. Ce sont toutes ces racines qui font qu'un jour, on écrit. Et hier, avec Jean-Claude Duniac, on a tout à coup fait le lien, j'ai fait le lien, avec Déchiffrer la trame et une anecdote particulière qui nous a livré, comme ça, tout à trac, hein, sur son propre père. Et il a pris conscience tout à coup que Déchiffrer la trame était une histoire familiale. Moi, je n'en savais rien, mais c'est lui qui m'a fait découvrir. Et je lui ai fait découvrir que, finalement, il m'a dit, mais tu as tout à fait raison, c'est bien ça. Donc, Déchiffrer la trame, c'est beaucoup plus intime et familial qu'on le croit. Et pourtant, on est aussi dans la science-fiction. Alors, quelles sont mes racines à moi? Eh bien, hier, c'est pas difficile, à midi, j'ai entendu derrière moi quelqu'un, qui est peut-être ici, qui évoquait le docteur Oméga. Et tout à coup, je me suis dit, mais oui, le docteur Oméga, et j'ai précisé, ou les aventures fantastiques de trois Français sur la planète Mars, 1903, Arnoul Galopin. Il se trouve que ce récit est un des premiers récits que j'ai eu entre les mains à la campagne, près de Besançon, dans la maison de mes parents. On était en juillet, on était dans les années 50, j'avais 7 ou 8 ans, et j'ai grandi chaque année parce que la voisine me prêtait le docteur Oméga dans sa version d'origine, 1903, un livre sans doute de la collection Hetzel. J'ai grandi avec ça. Et puis peu à peu, et peu après, j'ai grandi avec l'astronomie parce que je suis un enfant du space opéra. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi avec Hergé, avec Objectif Lune, on a marché sur la Lune. J'ai grandi avec Jules Verne, avec Autour de la Lune, et avec avec cette fascination pour l'espace. Je me suis très jeune, à 12 ans, 13 ans, passionné pour l'espace. Et puis il se trouve que dans les années 60, j'ai grandi avec la conquête de l'espace. Je dis souvent en intervention que ce qui m'a marqué, c'est qu'à l'âge de 12 ans, en 57, ma mère m'a réveillé en me disant « Cette nuit, les soviétiques, c'était les Russes, hein, ont lancé un objet dans l'espace, il n'est pas retombé, il tourne autour de la Terre. » Et je me suis dit « Bon, bah, un jour, on va peut-être vraiment y arriver. » Sur la Lune. Et vous le savez, hein, 12 ans après, on y est allé. Donc entre 57 et 69, c'est-à-dire entre 12 ans et 24 ans, j'ai grandi avec cette fascination pour l'espace. Alors bon, à l'époque, j'habitais Paris. Où est le terroir là-dedans, allez-vous me dire? Il n'empêche que quand j'ai commencé à écrire, et j'écrivais déjà quand j'avais 12 ans, mais quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction, il y avait Paris, bien sûr, pour vous citer les romans que j'ai écrits, mais j'ai écrit La Machination, publié en 72, pris au RTF, ça c'est mon troisième roman. Ça se passe à Paris, effectivement, tout se passe à Paris, j'habitais Paris. Et puis, très vite, le terroir a pris le dessus, et justement, le terroir, c'est-à-dire le Doubs, le département du Doubs, la Franche-Comté, puisque mes premiers romans, je m'en suis aperçu. Et ma femme Annette est là, la première, pour cause, parce qu'en 57, on se connaissait déjà, à le savoir. Aïe, au terrain visible, 73.
C'est dans le Doubs. Les grottes.
Et c'est les grottes. On ne m'a pas répété avant, hein. Ce sont les grottes. Et là, je suis devenu aussi un fanatique de spéléologie. Très bizarrement, se sont développées en moi deux fascinations, qui sont d'ailleurs celles de la plupart des enfants de 12, 13 ou 14 ans, qui vont de pair, finalement. La préhistoire, les grottes, nos origines et le ciel. Et ce sont ces deux terroirs, en quelque sorte, qui ont fait que j'ai fini par écrire la science-fiction. Alors j'ai fait le compte, puisqu'il y avait ce thème obligé, et je me suis aperçu que les Cascadeurs du Temps, près du Salon de l'Enfance, 1976, c'est la vallée de la Loue, dans laquelle se trouve une faille spatio-temporelle, et on va déboucher dans le futur grâce à cette faille spatio-temporelle. Et le Fleur de l'Espace, en 1977, c'est l'Observatoire de Besançon, qui était un des grands observatoires de France, du moins à l'époque. Le Cœur en Abîme, Grand Prix de la science-fiction française pour la jeunesse, en 1988. Nous sommes encore dans les grottes. Alors j'ai fait de la spéléologie, j'ai initié d'ailleurs notre fils à la spéléologie, mais c'est une continuité, effectivement. Et la spéléologie, c'est quoi? C'était en effet le Haut-Doubs, la Haute-Saône, le Jura, la Franche-Comté, et puis ça s'est transformé en Dordogne. À quel moment? Je cite 88, le cœur en abîme, puisqu'à la fois il y a un abîme. 88, c'est l'année où Michel Jury, on le sait, a commencé à écrire des romans de terroir. Très bizarrement, je fais le lien là aussi avec Michel Jury, c'est le moment où il a quitté Ici Jacques et où nous sommes allés en Dordogne. Et Michel d'ailleurs, chez nous en Dordogne, au Flet évidemment, y compris pour y voir Dominique Dota qui était un de ses amis d'enfance, celui-là même qui avait vendu notre maison, et qui nous a vendu la maison, qui est Dominique Dota. Michel a toujours été nostalgique, il nous a fait d'ailleurs, je me rappelle, je l'ai emmené à Ici Jacques est dans la banlieue où il a grandi. Mais je ne dis pas que j'ai pris la suite de Michel Jury, hein, je ne suis pas assez prétentieux pour ça. Mais c'est très bizarre comme Michel nous a convaincus d'aller en Dordogne et que le jour où nous sommes allés en Dordogne, lui s'est exilé à la banlieue Rendus, puisque c'est une histoire familiale là aussi, mais avec regret. Et j'ai pris en quelque sorte la suite en Dordogne de Michel, et il est vrai que je me suis servi du terroir, j'allais dire du territoire, le territoire humain finalement, c'est le terroir et le territoire, hein. Et la Dordogne est devenue le lieu dans lequel j'habite, je vis, et dans lequel j'ai ancré mes romans de science-fiction. Je pense notamment à Aïna, Fille des étoiles, 6 volumes, de 93 à 97, et ça se passe en Dordogne, et surtout peut-être La musicienne de l'aube, Grand Prix de l'imaginaire 98, je le place là, parce que ça se passe en Dordogne.
Ah oui, tout se passe.
Ça se passe en Dordogne. Non mais je le place pas pour me mettre en avant, je le place pour dire que tout ce que j'ai écrit dans le domaine de la science-fiction et qui a été connu ou reconnu est intimement lié au terroir et au territoire finalement. Et là, en effet, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, la Dordogne. Et donc ça, c'est depuis les années 90. Alors bon, pour résumer, je dirais qu'il y a dans ma vie et dans mon terroir, ou dans mon histoire, deux thèmes qui sont à la fois la grotte et l'espace, c'est-à-dire nos origines et peut-être notre futur. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié aussi quand il a été question de la préhistoire rangée dans la science-fiction. Et cette référence à René Aîné, parce que moi-même, je lisais quand j'étais très jeune, avant la dent, par exemple, œuvre méconnue, ouvrage méconnu de Jack London, qui, au tournant du 19e et du 20e siècle, s'est aussi passionné pour la préhistoire. Avant, ni Leroy Bourhan, ni Boucher de Perthes n'ont écrit le roman de science-fiction, c'est vrai, mais René Aîné l'a fait, il a mêlé lui aussi, comme vous l'avez très bien souligné, à la fois la recherche de nos racines, de nos origines, et puis le futur, et le futur et l'espace en même temps. Et finalement, comment dire, j'ai aussi récemment entendu, là on est dans le terroir, cette revendication qui m'a fait sourire, et qui je l'espère a fait sourire tous les amateurs de science-fiction. Je crois que c'était les Corses qui avaient lancé comme mot d'ordre « On est chez nous ». On est chez nous. Le terroir, c'est ça, la littérature du terroir, c'est la nostalgie du passé, d'un passé magnifié à mes yeux, du passé où il était fort agréable d'aller tirer de l'eau fraîche à la fontaine, alors qu'on est bien content d'avoir l'eau courante, l'électricité, ah, la bougie, oui, d'accord. Bon. Et beaucoup de lecteurs se complaisent dans cette littérature du terroir. Michel n'était pas du tout dupe de son lectorat. Il disait, oui, j'écris pour les dames de 60 ans qui rêvent. Qui parle de leurs grands-parents avec nostalgie, et il savait parfaitement ce qu'il en était, parce que lui avait vécu pour de bon, et on avait souffert, comme Natacha nous l'a bien fait comprendre. Donc, je dirais que c'est presque, je dirais que c'est une conclusion, mais j'ai grandi moi aussi à 15 ans avec cette image, en 1960, qui m'a fasciné et qui m'a bouleversé. J'avais 15 ans. 1960, c'est l'année où François et d'autres magazines ont publié en grand, en première page, une photo immense. Photo prise par un objet envoyé sur la Lune, ça peut être Luna 4 ou Luna 5, par les Soviétiques. Et c'était la première photo de la Terre prise dans l'espace, depuis l'espace. Pas la photo de la surface de la Terre, hein, d'un satellite, une photo avec cette île dans l'espace qui est la Terre. 1960. Je dirais, depuis 1960, moi j'ai un cri aussi, c'est on est chez nous. Mais on est chez nous, c'est ça, c'est la Terre. Et je pense que depuis quelques années, on n'a plus le droit de dire on est chez nous en parlant du territoire sur lequel on est, sur lequel on marche, parce que depuis pas mal d'années, et je dirais avec le réchauffement climatique, les auteurs de science-fiction le savent bien, aussi les premiers, c'est la Terre qui est en cause. Et là où on est chez nous, ce n'est plus la Dordogne, la Corse, la Bretagne, c'est même plus la France, c'est pas l'Europe. C'est la Terre. C'est notre planète, c'est toute notre planète. Et ce « on est chez nous » a été doublé dans mon esprit à 24 ans, en 1969, par une autre image qui m'a marqué. Et c'est une anecdote que je relate souvent, y compris à des jeunes. Parce que dans la nuit du 20 au 21 juillet, très exactement le 21 juillet, à 4h30, j'étais devant la télé, et vous savez bien ce qui s'est passé le 21 juillet à 4h30, 69. Armstrong, quelques heures d'ailleurs avant que ce soit prévu, a mis le pied sur la Lune. Et là, enfin, j'ai quitté la télé, on était chez mes beaux-parents, et j'ai été faire pipi dans le jardin. Pourquoi ? Parce que j'avais très envie de faire pipi, mais je ne voulais pas rater le premier pas de l'homme sur la Lune en direct, parce que depuis Jules Verne, depuis Hergé, depuis, voilà, j'allais dire depuis Fontenelle et Cyrano de Bergerac, que j'en rêvais, il l'avait fait. Et en faisant pipi dans le jardin, j'ai regardé, j'ai levé la tête, il y avait la Lune. Et je me suis dit, il y a du monde là-haut. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y avait quelqu'un ailleurs que sur la Terre. Parce qu'Armstrong, il n'était plus chez nous. Il était vraiment ailleurs, sur un autre astre, pas une autre planète, sur un autre astre. Et ça, ça m'a profondément marqué, j'avais 24 ans, et, bon, et c'est là où j'ai commencé effectivement à écrire de la science-fiction, ou plutôt à publier de la science-fiction, et à publier. Et finalement, on est chez nous, pourquoi ? Eh bien, le premier à avoir compris peut-être ça, c'est Herbert George Wells. En 1898, quand il a écrit « La guerre des mondes », si vous avez lu « La guerre des mondes », relisez-le, relisez-le, vous comprendrez que c'est ça, c'est « On est chez nous ». À savoir que les terriens sont chez eux, sur Terre. Et les martiens qui viennent ne sont pas chez eux. C'est pour ça qu'ils meurent, les martiens. Parce qu'ils ne sont pas chez eux. Mais là, c'est une histoire de planète. Et je dirais que Wells avait 100 ans d'avance. Il avait 100 ans d'avance. Francis Fersac l'a repris, ce thème, notamment dans La Vermine du Lion, bien sûr. Puisque La Vermine du Lion est l'un des plus beaux textes qui ait jamais été écrit sur la colonisation. Sur la colonisation, c'est... moi, j'ai été bouleversé par les Robinson. Bien sûr, enfin, toute l'œuvre de Francis Fersac, de La Vermine du Lion, reste pour moi un événement tout à fait marquant. Alors, finalement, la science-fiction, à mon avis, et ça, c'est le thème de ce soir, mais je prends de l'avance. Hein,
oui, merci.
C'est la science-fiction et la réalité, c'est ça.
Oui, enfin, science-fiction et science...
Moi, je pense que la science-fiction ne parle que du réel. Et d'une façon peut-être métaphorique, je dirais que toute la littérature ne parle que de l'humanité, l'homme, et tous ses problèmes, même quand on a des extraterrestres aussi différents qu'ils puissent être. Et ce lien entre le terroir et la science-fiction, moi, je le fais avec... finalement, en effet, c'est ça, c'est-à-dire François Bord, nos racines, la Terre, et je dirais même sous la Terre, les grottes, l'origine de l'humanité, l'origine de la vie, l'origine de la vie, oui, effectivement, de la vie. Et puis, et ça, Natacha nous l'a bien dit tout à l'heure aussi, les pieds dans la Terre et la tête dans les étoiles et notre futur. Et c'est bien ça, en effet, la science-fiction, en réalité. À l'image de cet arbre qui a des racines et puis qui se projette vers le ciel, c'est ça. Je dirais que c'est aussi ma conviction en ce qui concerne les religions. Le terroir, c'est le territoire humain. Et le territoire humain, finalement, c'est quoi ? Moi, je dirais, bon, c'est pas pour conclure, mais j'aime cette image de cette religion que j'ai, moi, qui est la seule qui me semble acceptable aujourd'hui. C'est le vertige que j'ai, le même que j'ai eu en 69, en regardant le ciel, en regardant l'espace, en regardant l'infini. Ce sont les deux questions que je me pose et que se pose de tout temps l'humanité, que se pose d'ailleurs dans le film La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, parce qu'à la fois il regarde l'espace, il regarde le ciel avec le ventre rebondi de cet enfant qui va naître et la lune, avec toutes les liaisons métaphoriques qu'on peut faire évidemment. C'est la question tout simplement de la place de l'homme dans cet univers qu'il découvre et dont il commence à mesurer les limites. C'est les questions de temps, avec un univers où vous savez qu'il y a des dizaines de milliards de galaxies, chose qu'on ne savait pas à l'époque de Boucher de Perthes, bien sûr, ni même de Rogny Aîné, puisque la découverte des galaxies est relativement récente. Et puis c'est bien sûr notre place dans le temps, c'est-à-dire ces 13 milliards d'années, 1,7, hein, d'existence de notre univers. Est-ce le seul ? Et puis cette grande question dont la réponse pourrait être la réconciliation, et là on est avec Roland Lehoucq dans le domaine scientifique, la réconciliation de la relativité avec la physique quantique, c'est-à-dire le grand mystère aujourd'hui qui est l'équation qui va en effet réconcilier ces deux théories qui ne fonctionnent pas bien ensemble, on cherche, voilà, c'est peut-être la matière noire, c'est peut-être aussi ce que Dawkins appelle le grand tout. C'est cette équation finale à la recherche de laquelle sont aujourd'hui tous les scientifiques, notamment les astrophysiciens. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire concernant le terroir, le territoire humain et finalement cette liaison entre l'espace d'où nous venons et l'espace où nous allons. C'est des questions métaphysiques, mais ce sont les grandes questions que se pose l'humanité depuis qu'elle est
humanité. Merci, Christian. c'est que c'est sa conclusion, très belle conclusion, voilà, qui nous renvoie dans l'espace et puis surtout qui nous renvoie dans le temps de notre convention vers la table ronde de ce soir, le rapport évidemment entre la science et puis la science-fiction. Hein, où est-ce que la science en est par rapport à nos fantasmes, donc je dirais science-fictionnels. Donc ça, c'est vraiment les grandes questions. Vous voyez qu'on risque de se poser, on prend des parties de la Terre aujourd'hui pour aller effectivement dans des dimensions, vers la physique quantique, vers la relativité, vers l'espace, vers les exoplanètes aussi, puisque ce soir, nous aurons nos spécialistes bordelais de la question sur les exoplanètes, mais qui est aussi un très grand fan, comme évidemment notre ami Roland Lehoux, qui est ici présent, donc évidemment qui est un grand fan de science-fiction et qui fait tout à fait la part des choses. Donc il y a vraiment ce va-et-vient, cette réflexion entre science-fiction et science qui va être tout à fait passionnante. Alors, il nous reste un petit peu de temps, donc est-ce que vous avez des questions à poser ? Des remarques à faire, ce que vous voulez sur ce sujet. Oui, je pense qu'on va t'entendre là.
Oui. Tu parlais tout à l'heure d'un lien entre un des personnages de Michel Géry, qui s'appelait Le Rouge. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de penser qu'il a fait une référence à Michel Le Rouge ?
C'est fort possible. Mais chez Michel, c'est toujours, c'est jamais une seule réponse. Il avait lu Gustave Le Rouge, ça c'est sûr, parce que ça faisait partie. Parce que moi je vais quand même poser la question, il y a quand même une question importante. Michel est né en 1934, il était quand même au fin fond de la Dordogne, donc comment est-ce qu'il a eu accès à. Pourquoi il s'est intéressé à la science-fiction ? Comment il a eu accès à des textes ? Et la réalité, c'est que il est allé dans plusieurs maisons, à l'école, des petites bibliothèques, voilà, du village, où il a pu avoir accès à quelques lectures, et dont évidemment ce type de lecture, comme Christian peut-être avait eu accès à Arnaud Galopin, dont tu as parlé, voilà, 1903. Et ensuite, ce Le Rouge, c'est parce qu'en fait, le titre du roman initial, donc il était, alors attendez, le titre c'était Rouge du soir, je crois, ça plaisait à Michel.
Rouge le soir.
Voilà, Rouge le soir, Rouge le soir, très précisément. Donc il y avait cette idée de rouge qui lui traînait dans la tête. Et comme il a changé de titre, c'était un goût d'herbe folle, je crois, ce premier roman. Comme il a changé de titre, il a quand même gardé cette histoire de Le Rouge et il l'a mis évidemment pour son personnage. Voilà, oui. C'est parce que son père en fait avait fait la guerre de 14 et dans les tranchées, il était devenu sous-officier, c'était quelqu'un d'assez courageux, il avait grimpé un petit peu les échelons grâce à son courage, on va dire, militaire, et il avait protégé Granché, qui était beaucoup plus, je dirais, fragile physiquement que lui. Et donc ils sont devenus très amis. C'était donc un compagnonnage militaire pendant la guerre de 14 et ils sont restés en contact longtemps après justement la guerre de 14-18. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Oui, c'est ça. C'est une amitié, on va dire, de tranchée. Ouais. Oui,
Jean-Marc. C'était pour rebondir sur cette idée de « on est chez nous de, », de la...
Tu veux venir, non, peut-être
Moi, j'ai eu l'impression aussi, avec le mouvement du retour à la Terre des années 70, qu'il y a eu ce questionnement de la SF, enfin de la Terre, comme on s'est interrogé, est-ce qu'on est propriétaire de la Terre, avec un grand T, ou simplement locataire ? Et en fait, l'interrogation de beaucoup de textes dans Retour à la Terre, dans la série, dans certains textes de Deleuze, c'était aussi de se dire on est nous-mêmes, on est transitoire sur une terre transitoire. Et une partie j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mutation entre la SF des années 50 et avant, où la terre, on en est propriétaire, on se défend d'ailleurs, on est chiffres en invasion, on se défend. Et puis dans les années 70, un retour à la terre où j'allais dire plus pacifié aussi, avec un questionnement, est-ce que la nature derrière le vol n'est pas en train de tuer en fait le substrat sur lequel on est, et voilà. Du terroir.
Oui, la nature, comme l'a dit Jean-Patrick, c'est-à-dire vraiment cette enfin ce retour à la nature, hein, dans le sens vraiment essentiel du terme. Je pensais à l'œuvre d'André Gide, Le Monde Enfin. Il avait d'abord écrit une nouvelle et puis ensuite il en a fait évidemment un grand roman. Il s'est servi de sa nouvelle scindée en plusieurs parties pour en faire des chapitres donc, de son roman, où l'homme disparaît. Enfin, après, donc, un cataclysme dû à un virus, hein, en fait, l'homme disparaît. Enfin, c'est pas une catastrophe climatique là pour le coup, mais c'est une catastrophe biologique. L'homme disparaît et c'est la nature qui reprend ses droits par rapport à l'homme. Donc c'est complètement dans l'idée, Laurent, évidemment, de ce que tu disais, c'est-à-dire que l'homme n'est que locataire. Et qu'à un moment donné, peut-être dans l'évolution des espèces, mais ça c'était aussi présent évidemment chez Rony, hein, notamment dans La Mort de la Terre, où l'évolution finalement va faire que nous sommes une espèce qui est peut-être vouée à disparaître dans 1000 ans, 3000 ans, peut-être avant, et que nous allons disparaître à un moment donné, que la Terre va continuer finalement son destin sans nous, même si on l'a un petit peu abîmé entre temps. Mais moi j'y crois beaucoup à ça.
Oui. En fait, il y a quand même une grosse interrogation, parce que là on est en France, et quand on a souvent une discussion avec les Américains, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire pour eux, ils sont vraiment les propriétaires de la Terre, au-dessus d'eux il n'y a que Dieu, et donc c'est très... Enfin, moi je ne sais pas si c'est pas un jeu utopique cette façon de penser avec nos pieds là, bien installés, je ne sais pas.
Mais c'est peut-être tout simplement une des caractéristiques, bien sûr, de la science-fiction française, et puis tout simplement de la mentalité française. Ça, je crois que c'est un élément culturel. Hein. On a en France un rapport au terroir, à la terre, à la nourriture, qui est tout à fait spécifique, et qu'évidemment, on ne retrouve pas, bien sûr, dans d'autres cultures, et notamment la culture anglo-saxonne ou américaine. Même si ils ont aussi quand même un rapport à la terre particulier aussi. Oui, Laurent, tu voulais dire?
Et Simac, Clifford Simac, est un peu une voix un peu originale justement dans le paysage de cette époque. Parce qu'il y a cette espèce de nostalgie un peu symbolique qu'on ne retrouve pas dans le texte américain.
J'avais participé à un colloque il y a quelques années sur la mélancolie, et je me suis dit, alors ils m'ont demandé évidemment de faire le lien avec les textes de science-fiction. Alors là, j'ai dit la mélancolie et la science-fiction, ça va être un petit peu compliqué quand même, parce qu'on n'est pas du tout dans une littérature romantique. Et j'ai pensé tout de suite à Simac, parce que dans Demain les chiens, il y a une nostalgie très forte qui sort complètement du texte, et qui vient de l'appartenance de la famille. Là, on traverse finalement quasiment les générations, les siècles. Et la seule chose finalement qui reste, je dirais, de cette famille Webster, hein, de cette famille humaine, puisque les humains, dans Demain les chiens, quittent la planète pour aller sur Jupiter, donc il n'y a presque plus personne sur la planète, sauf sur cette colline. Alors évidemment, on est dans la nostalgie des origines, hein, qui a été quand même chantée par Virgile. Vous voyez, il y a quand même un rapport aussi très fort à la Terre. Et dans cette maison qui reste sur la colline, les générations se succèdent, donc il y a cette nostalgie du temps qui passe. Et le dernier à éprouver cette nostalgie, c'est le robot Jenkins, qui évidemment a été construit pour durer des millénaires, et qui est le seul finalement à être dépositaire. Il éprouve la nostalgie de l'humain. Voyez, et ça, nostalgie de l'humain, de la terre, de la maison, et ça c'est effectivement Simac a quand même une... On va retrouver ça dans d'autres romans, je pense aussi au Grand des siècles par exemple, mais on va retrouver ces éléments-là effectivement chez Simac.
Oui. Là aussi, dans le dernier texte des Martiens, Chronique Martienne de Bradbury.
Bien sûr, tout à fait, aussi. Oui, tout à fait.
Est-ce que Pierre... C'est dans la nouvelle qui s'appelle La Terre Mondeau, que je pense que c'est le plus marqué.
Ah oui, aussi. Oui, j'ai pensé au grand roman, oui,
c'est le texte qui est pour moi.
Mais Simac est un auteur, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un auteur très touchant, très poignant. Hein, il touche quand même des... Christian, tu parlais de l'humain. Je crois que Simac, c'est peut-être un des auteurs vraiment américains, avec Bradbury peut-être, mais qui touche complètement le cœur de l'humain. Hein, la famille, la terre, le temps qui passe, hein, ce sentiment que nous ne sommes peut-être rien non plus par rapport au temps et par rapport au renouvellement des générations. Donc c'est effectivement cette lecture-là qui est américaine, peut-être la plus proche, ouais, de la nostalgie. Pierre, est-ce que tu voulais intervenir sur le sujet par rapport à la terre, par rapport à la région?
Il y a énormément de choses à dire, ça m'évoque beaucoup de choses. Premièrement, je me découvre beaucoup de points communs avec Jury dans ce que tu as dit de lui, parce que mes parents étaient bétayers, pauvres mais pas miséreux. bien qu'on ait toujours mangé une faim, mais ça, je pense que dans ma famille, la génération d'avant, celle qui correspond à celle de Michel, a souffert de faim. Il a publié assez tard, comme moi, à 38 ans. Et puis j'ai eu un échange avec lui à la fin de sa vie, tout à fait étrange, parce qu'il ne m'y attendait pas du tout. Il m'envoyait un mail pour me parler avec moi de l'aspect spirituel des choses de mes œuvres. Donc ça a duré très peu de temps, j'ai eu à avoir un échange de 2-3 mails, et puis après ça s'est arrêté. Donc c'était le rapport que j'ai eu avec lui. Il m'avait dit, c'est même pas la peine d'aller au cadre SF, ça ne va pas t'intéresser. Donc j'en ai eu un, parce que j'en avais jamais vu. Et puis concernant le terroir, bon, je suis quelqu'un qui effectivement, je suis né à la ferme, vraiment à la ferme, c'est-à-dire sur le lieu du travail de mes parents. Mais paradoxalement, j'ai toujours détesté le travail de la ferme comme lui d'ailleurs.
Oui, mais Michel n'aimait voilà. Pas du tout. Hein.
Pour moi, c'était l'horreur de travailler à la ferme. Mais je m'arrangeais toujours pour échapper aux travaux des champs. Ce qui me valait beaucoup de montrer à part de mes frères, mais quand tu fais pour te barrer. Donc j'ai un rapport au terroir à la fois, je suis très attaché à la terre. Je travaille parce que évidemment les paysans sont les pères nourriciers. Par exemple, dans l'espèce opéra, quand on colonise une planète, il faut déjà repenser à la nourriture, donc créer des communautés agricoles, enfin, d'élevage, etc. J'ai travaillé ça beaucoup dans Orcaron.
Dans Absalom aussi, tu avais, dans le roman Absalom, t'es...
Oui, mais c'est surtout la suite, parce que la suite, oui. C'est la colonisation d'un nouveau monde, et c'est une organisation matriarcale du grand domaine agricole qui s'appelle Mimatel.
Orcaron.
J'ai travaillé ça aussi avec les fables impures, étant donné que j'ai vécu un an en Dordogne, dans le Périgord noir. Il y a aussi un retour aux racines avec l'ange mineur, qui est une sorte de retour vers ma Vendée natale, finalement. Et puis après, j'ai beaucoup réfléchi sur le fait que la notion de propriété de la terre, qui sont d'abord les Américains, qui sont des pionniers qui ont conquis un territoire pour délimiter un territoire. Et il y a une réflexion d'un chef indien qui était, mais comment peut-on posséder la terre? Comment peut-on posséder l'herbe? Comment peut-on posséder le vent? Et ça m'a beaucoup interrogé sur le passage de du nomadisme à la sédentarité. Je pense que la sédentarité, c'est la notion de frontière, de clôture, etc. Et le nomadisme, c'est la notion d'épouser les cycles. Et finalement, d'accepter que nous sommes que des éphémères sur ce monde, ce qui est très très dur pour des sédentaires qui font tout pour transmettre. J'ai l'impression que toute la législation, c'était pour transmettre des territoires, transmettre des frontières, transmettre des clôtures.
Des propriétés.
Des propriétés.
Même toutes petites, mais...
Sachant que l'on meurt, je trouve cette obsession complètement dérisoire. Il y a un film de Capra qui dit « Vous ne m'emporterez pas avec vous ». On ne m'emportera pas avec vous.
Mais non, on n'emporte rien avec vous.
Donc je me suis beaucoup... j'ai beaucoup réfléchi sur le passage du nomadisme à la sédentarité. Et pour moi, la sédentarité, c'est un peu... pour moi, hein, c'est la nature explicative de tous les conflits existants pour des possessions et des territoires.
Oui, ça c'est une thématique qu'on retrouve très voilà vraiment développée dans l'œuvre de Pierre. C'est une réflexion tout à fait intéressante sur cette notion de nomadisme, aussi nomadisme un petit peu spirituel, dans le sens où...
Alors évidemment la spiritualité c'est encore autre chose, parce que la religion pour moi c'est une captation matérielle de la spiritualité. Donc c'est retrouver le sens de la spiritualité, c'est aussi retrouver le sens du nomadisme, c'est-à-dire l'expérience chamanique directe avec les éléments et non pas par le biais de dogmes, d'un enseignement... organisé. Pour moi, l'Église catholique, c'est juste la continuité de l'Empire romain sous d'autres formes. Et je pense que ça a éloigné vraiment l'être humain de son aspiration. Alors, la faiblesse de penser, ça, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qu'il y a une aspiration spirituelle propre à l'être humain. Ne tirez pas sur les toits. Et pour moi, l'exploration, peut-être ça va défendre ce qu'on va se dire. Samedi après-midi, pour moi, l'exploration spirituelle fait partie intégrante de ma vie. Quoi. Et je la relie bizarrement à la nature, au terroir, etc.
Mais normalement, Pierre, là, tu poses, on a posé un clou, on l'explorera justement samedi après-midi.
Je pense que par rapport à la post-humanité,
dont
nous parle Stotterjee, des gens comme ça, nous n'avons pas encore atteint l'humanité. Donc, avant de penser post-humanité, ça va être intéressant de se dire.
Merci Pierre. On va donner la parole là pour terminer parce qu'après on va.
Juste une petite note technique. Michel Jury a quand même commencé à publier fin des années 50, début des années 60, même si c'est arrêté après, avec deux romans orientaux fantastiques, plus Le Diable Souriant, me semble-t-il.
Oui. Le Diable Souriant, c'est une Diable souriant, qui était un roman en fait sur un résistant, Péricourt.
Voilà. Et une nouvelle dans les œuvres libres, c'est vraiment un cerveau qui vous ont tout
mis. J'ai parlé du temps à certains parce que c'est vrai que c'est pour lui, les œuvres avant.
Non, mais il est vrai qu'après, il est retourné à une condition d'ouvrier agricole et il est redevenu écrivain avec le temps à certains.
Mais c'est très compliqué. Si vraiment vous voulez en connaître un petit peu plus sur la carrière de Michel Jury, où il raconte ça très bien dans notre publication sur les carnets chronomythiques. Où justement, il nous a raconté ses souvenirs sur ces périodes-là de vie où il a tenté d'écrire, il a fait une multiplicité de petits métiers. Voilà, Michel, c'était un petit peu un nomade hein, quand même aussi de la vie quelque part parce qu'il ne voulait pas se fixer. Et il a réussi finalement à se fixer, je pense, en tant qu'écrivain. D'abord dans une première partie, effectivement, à Issy-Jacques, hein, dans les années 70. Et puis ensuite, dans les Cévennes, où là, il était devenu un écrivain vraiment reconnu, littéraire, etc. Mais il a eu toute une partie de vie, je dirais, en pointillée, qu'il aimait bien raconter comme ça pour l'anecdote, mais il n'aimait pas cette partie de sa vie, détestait cette partie de sa vie. Voilà. Et puis il a perdu des manuscrits, par exemple, dans cette partie de sa vie, il n'a jamais retrouvé. Voilà, donc il était assez, finalement, assez léger sur cette partie-là, et il le reconnaissait lui-même.
Ça a été effectivement une belle vie à l'époque et des années assez difficiles, notamment avec son père Jean Latterre, qui s'occupait.
Mais oui,
c'était
à la fin des années 80, effectivement. Mais pour Michel, quitter Issy-Jacques, c'était à la fois quitter la science-fiction, mais en même temps quitter ses parents, puisque ses parents sont morts à quelques années près, voilà, à la fin des années 80. Et en même temps, c'est de la continuité, puisqu'il s'est mis à écrire donc, de la littérature régionaliste. Donc c'est vraiment, je pense, un écrivain qui est... Enfin, il faut comprendre sa complexité par rapport à ces éléments-là, ces différents éléments. C'était un petit peu le point de départ de notre réflexion d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, éclairci un certain nombre d'éléments par rapport à cette thématique. Alors, en théorie, maintenant, je dis en théorie, nous avons le petit court-métrage, donc on va faire 5-10 minutes de pause, et on va lancer donc, le court-métrage d'Alain Bourré, qui est présent parmi nous et qui est en fait un court-métrage d'à peu près 28 minutes, Alain, c'est ça ? Voilà, 28 minutes, et qui est une variation sur nous autres Zamiatines. Voilà, un peu à la façon de... Voilà, merci. Donc à tout à l'heure. Alors on va faire... Si jamais on a du mal à le projeter, parce qu'on ne peut pas faire le jour, on le projettera peut-être ce soir. On va voir, hein, on va faire un premier essai. Merci en tout cas d'être là.